C'est avec plaisir qu'on retrouve Adam Oliver Brown, qui est régulièrement avec nous, professeur à l'Université d'Ottawa. De fait, sa spécialité, c'est d'enseigner les sciences, mais de façon simple, à des gens comme nous, puis aux auditeurs, mais également membre associé du McGill Office for Science and Society. J'espère bien prononcer. Cela dit, je te salue, mon cher Adam. As-tu retrouvé la voix?
Oui, bonjour, je suis de retour et la voix aussi. Malheureusement, je l'avais perdu temporairement à cause d'une petite infection à la gorge, mais grâce aux effets des antibiotiques, je suis de retour, puis la voix aussi, donc on est là.
OK, Adam, c'est pas à cause du cannabis qui est finalement légal au Canada, ça c'est autre chose. Parle-nous des vas-y.
J'aurais pu peut-être en profiter parce qu'on est rendu à ce point-là où c'est disponible pour nous tous, même pour des soins médicaux. Je pense pas que j'aurais peut-être voulu en fumer à cause de la sensibilité de la gorge, mais il reste des options avec des onguents puis des pommades, puis on est rendu là parce que le cannabis est légal, donc je pense que ça mérite d'être discuté encore cette fois-ci.
Absolument. Dis-nous comme scientifique les avantages et désavantages pour la société.
Ben c'est ça, parce qu'en fait, il y a tellement des aspects qui sont impliqués par cette légalisation et je sais qu'on a discuté dans les médias des aspects économiques, légaux et tout, mais il reste quand même des aspects scientifiques qui sont pas vraiment, de mon point de vue, pas vraiment explorés de façon explicite pour comprendre qu'est-ce qu'on sait puis qu'est-ce qu'on sait pas. Puis c'est surtout le dernier qui est plus commun par rapport à la science autour du cannabis et parce que ça fait tellement longtemps que c'était illégal. Donc il y avait une interdiction au niveau des études, puis ça nous laisse dans un espace d'ignorance pour beaucoup des aspects qu'il touche. Si on est pour parler des aspects scientifiques autour du cannabis, je pense que les deux qui sont les plus importants à souligner sont celles qui touchent la santé publique, mais également la sécurité publique. Et dans les deux des cas, ils ont un point en commun qui est très, très important, c'est qu'on ne sait pas beaucoup sur le sujet. Il y a une très grande lacune au niveau des connaissances scientifiques pour nous aider à guider là-dessus. Et ceci, ça peut être problématique.
Au niveau de la santé publique, comment tu analyses la chose?
Mais quand on parle de santé publique, on peut parler du pour et du contre, parce qu'en fait, c'est clair qu'il faut mentionner que le cannabis, ça fait déjà longtemps qu'on l'utilise pour des soins médicaux. Donc, il y a plusieurs milliers de Canadiens et de Canadiennes qui ont profité de ces aspects médicaux du cannabis depuis longtemps pour soigner des douleurs chroniques, par exemple, la nausée provenant de, disons, la chimiothérapie ou des spasmes musculaires comme celles causées par l'épilepsie ou sclérose en plaques, par exemple. Son potentiel pour être utilisé comme des médicaments est très, très grand, mais encore une fois, les données sont pauvres et en ce moment, grâce aux années d'interdiction sur la recherche, on a très peu d'informations. Alors, de ce point de vue, en termes des bénéfices, les avantages de l'utilisation médicale, on peut considérer qu'il reste encore beaucoup de recherches scientifiques qui pourront mesurer et puis déterminer ces effets bénéfiques et beaucoup de progrès et d'aspects intéressants à voir à date.
Ce que je comprends, Adam, c'est qu'il n'y a pas assez de faits validés, de recherches validées pour nous dire ce qu'on nous dit, hein, c'est ça?
En fait, c'est cela, ça va être le message principal que vous allez voir qui va être à travers toute cette chronique d'aujourd'hui. Une autre incertitude au niveau de santé publique, c'est qu'il existe actuellement une controverse autour du potentiel que l'utilisation du cannabis pourrait contribuer au développement de certains syndromes psychotiques, comme la schizophrénie, par exemple. Pour être clair, ceci, ça ne suggère pas que le cannabis peut causer ces syndromes, mais plutôt qu'il pourrait agir comme un genre de catalyste pour promouvoir leur développement, seulement chez des individus qui étaient préalablement susceptibles à développer ces maladies quand même. Mais si c'est le cas, on pourrait voir une augmentation dans ces cas psychotiques si la consommation augmente auprès de la population canadienne. Mais encore, c'est loin que certain parce qu'il nous manque des informations à date pour y savoir. Alors, c'est vraiment un autre aspect qu'il faudrait avoir la vigilance, puis encore une fois, des études pour mieux comprendre cet issue.
L'autre préoccupation majeure, c'est la sécurité publique.
C'est ça. Donc, quand on parle de sécurité publique, je pense que principalement, on va parler de la conduite avec intoxication parce qu'on sait déjà qu'en termes du comportement lié avec la consommation de cannabis, que ça ne provoque pas l'agression ou la violence, même au contraire, en fait. Mais avec de plus en plus de personnes qui vont être sous l'effet du cannabis au Canada, il y aura évidemment des craintes autour de la sécurité publique lorsqu'ils décident de conduire leurs automobiles. Le problème avec le contrôle de cette situation, c'est qu'il nous manque des informations pour nous guider. Donc, le défi pour surveiller, pour punir les conducteurs intoxiqués, sont sur deux volets. D'abord, sur la difficulté de mesurer le cannabis comme intoxicant dans le corps d'une personne. Et deuxièmement, de savoir à quel point et à quel niveau cette personne peut être considérée intoxiquée. Donc, si on regarde évidemment la première, d'abord, si on compare ça à les tests pour intoxication avec l'alcool, c'est très facile avec l'alcool parce que l'alcool est soluble à l'eau. Donc, on dit que c'est hydrosoluble. Le cannabis, c'est pas. C'est en fait liposoluble ou plutôt hydrophobe. À cause de ceci, on peut mesurer facilement la concentration d'alcool dissous dans le sang, puis ça représente très précisément le niveau d'alcool ailleurs dans le corps, comme par exemple dans le cerveau, donc qui peut indiquer l'intoxication. C'est le contraire pour le cannabis. Par contre, parce qu'il est liposoluble, il va migrer du sang vers les tissus, vers le gras et être emmagasiné dans le corps plus longtemps et même plus longtemps après que les effets d'intoxication sont encore là. Donc, ça ne mesure pas très précisément l'état d'intoxication ou les capacités de conduite de la personne sur le bord de la route, mais peut même refléter le fait qu'ils ont fumé un joint la semaine passée dans une partie avec des amis, puis ils sont pas du tout encore sous l'effet de la drogue.
Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas d'appareil fiable en ce moment qui pourrait déterminer tout ça.
Ben, il y a ça, parce qu'en fait, même si on est capable de fiablement mesurer le niveau de THC, c'est-à-dire l'ingrédient actif dans le marijuana ou le cannabis, ça ne reflète pas nécessairement le niveau d'intoxication. Et ça nous mène au deuxième problème avec la conduite, c'est que, en fait, si on veut avoir des lois pour contrôler la conduite intoxiquée, c'est qu'il faut avoir une idée à quel point le cannabis va nuire à la capacité de conduire. Puis, en fait, ces informations sont également manquantes. Donc, je sais qu'on parle bon sens. On peut savoir tous qu'après un certain niveau, un certain montant d'avoir consommé le cannabis, qu'on ne devra pas conduire, mais que la loi n'est pas actuellement supportée par l'évidence en cet effet, comme qui est le cas avec l'alcool. Donc, ce niveau de 0.08 pour l'alcool, qui est comme le standard, est très précis, puis c'est basé sur des décennies des études scientifiques qui mesurent l'incapacité de conduire au-delà de ce niveau. Puis, en fait, ces informations sont manquantes pour le cannabis.
Ben, je suis content de t'entendre là-dessus. Tu confirmes des choses que beaucoup de gens hésitent de dire là, du bout des lèvres.
Oui, ben c'est ça. C'est juste pour dire que si on va contrôler le comportement des personnes, ça doit être basé sur l'évidence. Puis si on est là pour protéger le public envers les dangers au niveau de conduite, ça doit être basé sur des dangers réels. Ce niveau actuel de point, c'est quoi, c'est 2 nanogrammes de THC qui est permis, c'est essentiellement un chiffre arbitraire parce que c'est pas supporté par l'évidence scientifique. Ce qui veut dire qu'en fait, ce n'est pas nécessairement une mesure de niveau d'intoxication de la personne. Et donc, ça peut être sujet à des contestations, par exemple, si une personne est arrêtée, puis la loi dit qu'ils sont intoxiqués, puis la personne dit, ben non, je n'étais pas parce que j'étais tout à fait correct. Alors, vous voyez qu'en fait, il y a une très grande lacune au niveau de nos connaissances et ces connaissances sont nécessaires pour nous guider en fonction d'être capable de régler puis de gérer ces issues qui vont avoir une très grande importance à notre société en avançant.
Ben, je te remercie de nous avoir expliqué ça, puis je pense qu'on pourra y revenir à un moment donné, parce que comme le dit le premier ministre, on va s'ajuster, dit-il, au cours des prochaines années pour voir. Alors là, je présume qu'on a plus d'études scientifiques sur la table, espérons-le.
Oui. Ben, je pense que c'est nécessaire et je pense que ça va venir. Comme vous dites, c'est une expérimentation publique qui est en processus en ce moment. Je pense que la plupart d'entre nous soient contents que le Canada est en train d'avancer vers le futur par rapport à cette guerre contre la drogue qui a passé sa date d'expiration pour la plupart d'entre nous. On est d'accord avec cela. Mais il reste tellement beaucoup d'incertitudes scientifiques qui sont nécessaires à connaître pour gérer cette législation de façon non seulement efficace, mais également équitable dans le futur pour qu'il reste un moyen de faire en sorte qu'on peut avancer avec le cannabis comme une partie intégrale de notre vie canadienne.
Merci beaucoup, Adam Leverbrown, encore une fois. Au plaisir de te reparler dans quelques semaines. Merci beaucoup.
OK, c'est mon plaisir. Merci, bye-bye.
Adam Leverbrown, donc professeur de biologie à l'Université d'Ottawa, qui aime vulgariser des choses complexes, et également membre, on doit le dire, d'un institut très important qui s'appelle McGill Office for Science and Society, 15h46.